Tony Comiti, troisième épisode, grand reporter, caméraman et photographe. Toujours à TF1, caméra au point, Tony Comiti poursuit son travail de photographe. Deux sujets, deux scoops. Le truand Jacques Mesrine, alors dans le quartier de haute sécurité de la prison de la Santé, et la momie de Ramsès II en examen à Paris. Dans cet épisode, Tony Comiti nous emmène à Beyrouth, au plus fort de la guerre civile, où les enlèvements sont fréquents. Puis enfin en Amérique latine, son jardin. Là, Tony Comiti est en recherche de sujets pour un nouveau magazine, et ce sera les mines d'émeraude et les premiers pas dans le cartel de Medellin. Tony Comiti, revenons à 1975, il y a un grand événement.
En 1975, Jacques Mesrine est arrêté par les équipes du commissaire Broussard. D'ailleurs, quand Broussard rentre dans la planque de Mesrine, l'autre il se rend et il lui offre le champagne. Hein, il lui dit on va boire un coup, hein, parce qu'on va fêter ton succès. Donc ça c'était incroyable à l'époque quand même. Aujourd'hui, il y a même, je crois, eu des photos de fête. Donc Mesrine est arrêté et incarcéré à la Santé. Et évidemment, tout le monde cherche des photos de Jacques Mesrine et il est à la Santé. Alors comment faire? Il se trouve que le patron de la Santé à l'époque est corse. Donc fait partie de ma communauté, hein, la diaspora corse. Donc je prends rendez-vous avec lui et je me fais passer pour un dessinateur de presse. Donc je lui dis voilà, bonjour, alors j'arrive avec mon carton à dessin. Bonjour, je suis Tony Comiti, voilà, donc je voudrais faire des dessins de la vie de Mesrine à la Santé. Et il m'a regardé dans les yeux, comme ça il me dit, me prends pas pour un con, je sais qui est Tony Comiti, tu es journaliste et photographe, donc si tu veux faire des photos de Mesrine, oublie, il ne sort pas. La seule indication que je peux te donner, c'est qu'il est dans le quartier de haute sécurité, Camembert Sud. C'est-à-dire que la Santé est divisée en plusieurs camemberts. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les QHS. C'était des quartiers de haute sécurité, ils étaient à l'isolement et ils ne pouvaient sortir que dans des cages. Il y avait des cages devant leurs cellules, quoi. Donc déjà j'avais une bonne info. Bon, je lui ai dit écoutez, bon voilà, au revoir cher compatriote. Au moins il m'avait donné une info, c'est-à-dire qu'il y a quatre quartiers à la Santé, sud, est, ouest et nord. Donc j'ai cherché un immeuble côté sud, mais quand même avec peu d'espoir, parce que l'info que me donne ce directeur de la prison de la Santé, c'est qu'il ne sort jamais de sa cellule. Je dis bon, mais il va quand même bien sortir un jour, quoi, quand même, il va pas rester enfermé toute sa vie. Donc j'ai repéré un immeuble quartier sud, et à l'époque il n'y avait pas autant de sécurité dans les ports, donc je monte au 6e ou 7e étage, il y avait des fenêtres là devant le qui donnaient sur la Santé. Et effectivement, d'une de ces fenêtres, j'avais une vision sur les quartiers de QHS. Côté sud, je dis, bon, s'il sort là, c'est le bon endroit, je pense. J'étais même venu avec une boussole, hein, pour voir où bien étaient les quartiers sud. Donc je regarde et je repère, il faut un 600 mm, hein, parce que je suis quand même à 800 mètres ou 1000 mètres, hein, donc c'est loin. Dans le viseur, c'est des petites fourmis, donc il faut un très gros télé, il faut un pied. Et j'apprends que cet immeuble est l'immeuble de résidence des matons, des gardiens de prison. Donc je dis, putain, s'ils me chopent là, je suis pas bien, donc je suis dans la cage d'escalier, ça va pas le faire. Et puis finalement, je monte au dernier étage de cet immeuble, et là, il y avait une trappe que j'ouvre. Je grimpe sur un petit muret comme ça, et ça donnait sur les toits. Donc pendant une semaine, avec un 600 mm, j'ai planqué sur le toit de cet immeuble. Et puis, j'ai commencé ma planque en début de semaine. Une planque, je veux dire, il faut donner un deadline. C'est-à-dire que quand on décide une planque, on ne bouge pas. On ne va pas pisser, on ne va pas bouffer. On se dit j'y vais du lever du jour jusqu'à la tombée du jour, mais je reste là, je ne bouge pas, c'est ça une planque. C'est comme ça.
Mais on dort.
Pendant la planque, on a l'œil dans le viseur. On a l'œil dans le viseur. C'est la chasse au gros. C'est du gros gibier, Mesrine, quand même. Hein. Donc j'avais mon parka là, comme ça, et puis donc lundi, mardi, rien. Il y avait toujours les mêmes mouvements. C'est curieux, une prison. Il y a toujours les mêmes mouvements au même moment. Mais s'il sort, il sort par cette petite porte. Et donc j'avais le 600 mm braqué sur cette petite porte. Et j'ai passé la semaine. Et puis rien, rien du tout. Et puis un samedi soir, je vais dans une boîte qui s'appelait le Bus Palladium, à l'époque, j'étais un des piliers. Je sors vers 5-6 heures du matin et je me dis, tiens, je vais terminer ma planque, je vais à la santé. Donc j'arrive avec mon télé, je remonte sur le toit, je m'installe. Au moment où je mets l'œil dans le viseur, la petite porte s'ouvre. Je vois Mesrine sortir et reculer. Il fait un pas en arrière et il envoie un gardien de prison qui me regarde. Je suis donc repéré. C'est-à-dire, ce que j'ai compris après, c'est que Jacques Mesrine, dans l'univers dans lequel il se trouvait, il y avait un détail, probablement moi, sur un toit. Il y avait un détail qui l'a troublé. Il avait un œil de faucon. C'est incroyable. Donc il a fait sortir, je l'ai su après par son avocate, hein. Il a fait donc sortir les gardiens. Les gardiens lui ont dit, c'est un photographe, parce que quand j'ai vu que les gardiens me regardaient, bon, ce que j'avais peur, c'est qu'on prenne pour un sniper. Mesrine était quelqu'un de quand même un peu menacé à l'époque. Et j'ai montré mon téléobjectif, et le gardien de prison a dit à Mesrine, c'est un photographe. Mesrine sort et pose. Il reste dans cette petite coursive pendant au moins 1 minute 30. Donc je peux vous dire que le moteur du Nikon a déclenché en rafale. Et puis après ça, il rentre dans la cage. Et puis il me regarde à travers le grillage de la cage, comme ça. Et il fait des exercices de sport, comme ça. Donc bingo. Bingo, la photo a été vendue à l'Express à l'époque, 20 000 euros, 22 000 euros, hein, quelque chose comme ça, ce qui était énorme pour l'époque, ce qui m'a permis de payer mes dettes à l'agence, parce que je devais, dans ces agences-là, à l'époque, on travaillait à 50-50, donc 50% des frais, 50% des ventes, et je devais avoir à peu près 10 000 euros de dettes. Voilà, j'ai payé mes dettes à l'agence grâce à Jacques Mesrine. Photo qui se vend toujours, je reçois des relevés tous les mois, alors c'est des petites sommes, et je dis toujours que la photo que j'ai faite de Jacques Mesrine me rapporte plus à moi que lui ses braquages. Donc après l'apparition de la série de photos dans l'Express, et après Match là, les a diffusées, tous les autres journaux, tout ça. Jacques a demandé à son avocate, s'il pouvait avoir un tirage, car il écrit à l'époque un livre qui s'appelle L'instinct de mort. Donc évidemment, je ne lui ai pas demandé de droit, je lui ai offert le tirage. Et il en a fait la couverture de L'instinct de mort, dans lequel il dénonce les quartiers de haute sécurité. La momie de Ramsès II débarque à Paris parce qu'elle avait des champignons, donc les scientifiques français allaient voir comment on pouvait stopper les champignons sur la momie de Ramsès II. Donc la momie est arrivée au Bourget dans une caisse. Et donc il y avait toute la presse, hein, qui était là. Puis tout le monde boucle. Moi j'étais en moto avec un motard de TF1. Tout le monde boucle. Ah salut, tu vas bien? Salut, au revoir, à bientôt. Et j'ai dit au motard, suivons la caisse. Il me dit, ah bon, tu crois? Je dis, mais suis la caisse, on va voir où ça va ce truc-là. Donc avec ma caméra, hein, sur la moto. Donc j'ai suivi la caisse. Et où est-ce qu'elle va, la caisse? Elle va au Palais de la Découverte. Je dis, tiens, c'est quand même curieux, pourquoi ils vont là, au Palais de la Découverte? Donc je rentre au journal, ils font un sujet pour le 20h, l'arrivée de la caisse, bon voilà. Et le lendemain, je vais repérer au Palais de la Découverte. Et à l'époque, il n'y a pas toute cette sécurité, Vigipirate. Et je passe par derrière, là, je vois une petite porte ouverte, je rentre, et je vois la caisse dans un grand couloir, comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est quand même incroyable. Donc je rentre au journal. Et on avait toujours, dans mon armoire, moi j'avais toujours un casque de pompier, une blouse blanche avec des stéthoscopes, un brassard de flic, pour mieux passer à travers dans les situations. Donc j'ai pris ma blouse blanche et mon stéthoscope, et puis je suis rentré au Palais de la Découverte, personne ne m'a rien demandé. Je suis rentré dans une salle, là où se trouvait, dans le couloir, la caisse, il y avait une salle. Et sur des étagères, il y avait des têtes de singes dans du formol. Donc, les étagères montaient sur 2 mètres, 3 mètres, comme ça. Donc, je suis monté sur une étagère. Alors, je pouvais pas rentrer avec une caméra, c'était pas assez discret. Donc, j'avais pris un petit Leica. Et ben, ça n'a pas loupé, hein. Quand ils ont ouvert la caisse, ils ont mis la momie. Voilà. Et puis, depuis mon étagère, au milieu de la tête des singes formol, j'ai fait 3 photos de Ramsès II, dont une à poil, mais que je n'ai pas publiée, quand même. Un peu de respect. Et puis, les autres, ben, c'était extraordinaire, c'était un scoop. C'était un scoop. Donc, voilà, il y a eu une protestation de Match à publier les photos. Donc, TF1 aussi. L'ambassade d'Égypte a protesté. Bon, voilà. Puis un jour, je suis retourné en Égypte avec ma famille. Puis je suis allé voir Ramsès II. Comme ça. J'ai eu l'impression qu'il m'avait reconnu. Comme ça. Il me dit, tiens, il me reconnaît. Il me dit, c'est toi le salaud là qui m'a planqué. Quand je suis venu à Paris, j'ai eu cet échange mystique avec la momie de Ramsès. TF1 avait deux bureaux à Beyrouth. Ils avaient un bureau à Beyrouth Ouest, Amra, et un bureau à Beyrouth Est, de l'autre côté. Et 82-83, c'est la pire crise hein, du Liban. TF1 avait installé un dispositif de 3 mois, c'est-à-dire les équipes restaient 3 mois à Beyrouth et revenaient à Paris 1 mois. Et j'ai fait partie de ce dispositif. Donc la première fois que TF1 m'a envoyé à Beyrouth, l'aéroport était fermé et on est passé par Chypre sur un bateau. On est arrivé de nuit dans le port de Beyrouth. C'était incroyable. Arriver de nuit dans une ville en guerre, c'est assez impressionnant. Et on a crapahuté sous les bombes en traversant la fameuse place des canons. Et le journaliste qui m'accompagnait s'appelait Raymond Girard. Et en passant devant la place des canons, comme ça, entre les balles, il me dit, c'est dingue ce truc. On devrait mettre cette ville sous une cloche de verre et en faire le musée mondial de la folie. Je me souviens de cette phrase de Raymond Girard. Et voilà, donc. Que je suis arrivé à Beyrouth et je remplaçais mon ami Roch Pescader qui était lui déjà en place et qui repartait le lendemain, donc je prenais sa place comme caméraman. Et Roch me dit, bon écoute, c'est chaud, mais on sait où sont les lignes de front, c'est pas comme au Salvador où c'est une guérilla, ça tire de partout. Là, voilà, si tu fais gaffe, ça devrait pas trop mal se passer. Il me dit, viens, on va aller boire un coup. Et on est allé dans un bar derrière le bureau de TF1 qui s'appelait le Backstreet. Et en rentrant dans ce bar, à gauche, il y avait un grand vestiaire. Il y avait, je sais pas moi, peut-être 200 ou 300 Kalachnikov, des RPG. C'est-à-dire ce bar était fréquenté aussi par des combattants, officiers. Et ils laissaient leurs armes à l'entrée, quoi. Et bon, donc on boit des coups avec Roch. Et il m'explique un petit peu comment ça fonctionne, que notre chauffeur est un très bon chauffeur et en même temps un très bon fixeur, important les fixeurs dans ces zones de combat. Et en sortant du bar, on regarde un truc incroyable, il y a un type qui courait en pyjama dans la rue. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il y a un cauchemar ou quoi celui-là? Il courait mais complètement affolé, pieds nus et en pyjama. Et Roch me dit, ouais, ben c'est ça Beyrouth, ils sont dingues. Bon. On rentre à l'hôtel et le lendemain matin, TF1 m'appelle et me dit « Dis donc, il y a un otage anglais qui est sorti d'un coffre, il s'est évadé en pyjama, faudrait le retrouver. » Et on l'a retrouvé. Il avait réussi à traverser la ligne verte entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Est pour rejoindre sa maison. C'est première journée à Beyrouth. C'était... surréaliste quoi. Vous passiez par exemple une journée avec des combattants de l'armée libanaise et puis en combat par exemple avec les mecs d'Amal ou le Hezbollah, donc des combats très violents. Et puis le soir vous rentrez avec eux dans leur caserne vers 18h, passent un convoi de leurs ennemis. Je dis, vous sortez la caméra, ça y est, ils les ont trouvés, ils vont les massacrer. Eh ben non, la guerre est finie, là, on va se coucher. C'est-à-dire que c'est ça qui était surréaliste à Beyrouth. Ou ce qui était surréaliste à Beyrouth, c'est que vous pouviez boire ou dîner tranquillement à une terrasse d'une pizzeria, et à deux rues de là, ils s'entretuaient au RPG. Et on savait que c'était une faction contre l'autre, voilà, et qu'ils ne toucheraient pas à cet endroit-là. C'est ça qui était surréaliste. Alors, sauf les bombardements israéliens, ça c'était redoutable, hein. Les bombes de 400 kilos. Alors, les bombes, les avions israéliens venaient tous les jours à la même heure, à 16h. Donc nous, on se positionnait sur un toit, on filmait le bombardement, puis après on allait voir ce qui s'était passé en bas du bombardement. Ça a été dur parce que beaucoup de civils sont morts là. Quand vous suivez des combattants, le danger est moindre. Pourquoi ? Parce que le combattant, il se protège lui-même. Donc il fait attention à ne pas se faire tuer ou blesser. Donc quand vous les suivez, vous prenez beaucoup moins de risques que lorsque vous allez, vous, tout seul, sur un endroit où il faut filmer parce qu'il vient d'avoir un bombardement. Là, vous prenez des risques considérables. Le risque de se faire enlever, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'était quand même le pays des enlèvements. D'ailleurs, à un moment ou un autre, j'ai failli me faire enlever moi deux fois. Une fois avec Jean Bertolino et une fois avec Raymond Girard. Ça a été très chaud, hein, c'est-à-dire on était parti à Beyrouth Est, et en revenant sur Beyrouth Ouest, dans une descente, on est tombé sur un barrage, et le type, il avait un RPG, c'était des mecs du Hezbollah, il avait un RPG, et la voiture n'avait pas de frein, elle avait des mauvais freins, donc on était en pente, et la voiture continuait d'avancer comme ça, et moi j'étais à l'avant avec ma caméra, et je voyais ce type avec cette cagoule et ce RPG, il reculait en même temps en essayant d'arrêter la voiture, il était presque monté sur le capot. À un moment, les autres sont arrivés et ont ouvert les portes. Moi, on avait des passes, des laissés-passer. Donc on avait des laissés-passer israéliens, des laissés-passer chiites, des laissés-passer chrétiens. Et de ma poche est tombé le laissé-passer israélien. Donc il l'a vu comme ça, il a commencé à sortir de la voiture. Mais on a été sauvés par une faction de l'armée libanaise qui passait avec un Jeep Toyota et une 12-7 et qui a commencé à leur tirer dessus. Donc on a profité du chaos sous les balles, hein, pour s'en sortir, sinon on était pris en otage, et là-bas on pouvait y rester un an, deux ans, hein, donc ça c'était notre problème, c'était la prise d'otage, c'est-à-dire vous quittez le bureau de téléphone le matin, vous savez pas si vous allez rentrer le soir. On se posait tous cette question, qu'est-ce qu'on fait si on est pris en otage, quoi. Moi j'avais la Bible toujours avec moi, en me disant, ben, au moins si je suis pris deux ans, je lirai la Bible. Et ça va être le truc le plus terrible. Bon, vous faites tuer, bon, c'est le risque du métier, hein. Vous allez dans des zones de combat, mon vieux, faut pas. Faites blesser, c'est les risques du métier. Mais la prise d'otage, je crois que c'est le plus dur. Le plus dur parce que je crois qu'on peut devenir dingue, quoi. Je sais pas comment nos confrères de France 2 ont tenu le coup. On pensait à eux tout le temps, hein, parce que lorsque j'étais à Beyrouth, l'équipe de France 2 était enlevée. C'était TF1 qui était visé. Ça, c'est incroyable. Et là, j'étais avec Jean-Pierre Abou, qui était un grand reporter de TF1. Et notre chauffeur fixeur, il allait pas bien. Il me disait toujours, tu sais, peut-être il faut mieux rentrer. Vous êtes un média très en vue. J'ai quelques petites infos, faut faire attention, comme ça, faut faire attention, qu'il me disait. Nous, on n'avait pas envie de rentrer parce que quitter Beyrouth, c'était céder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire plus de journalistes, plus de témoins dans la ville. Donc, on a résisté inconsciemment. TF1 réfléchissait beaucoup à faire revenir les équipes. Et puis, un jour, on est invité dans une mosquée le jour de la prière, le vendredi, quand on est invité à filmer, ce qui était très très rare, et on avait fait cette demande à Bir al-Abed, qui était un quartier Hezbollah à l'époque. Donc on y va, et quand on arrive aux abords de la mosquée, moi je repère un type qui était devant la mosquée, que j'avais déjà vu plusieurs fois devant le bureau de TF1, et monté dans une voiture sans plaque, et qui nous regardait tout le temps, comme ça. Et je le repère à l'entrée de la mosquée, donc j'ai comme eu une espèce de pressentiment. J'ai dit à Jean-Pierre Abou, je le sens pas ce truc-là, je le sens pas, ça sent pas bon du tout, rentrons. Et Jean-Pierre me dit, si tu le sens pas, on rentre. Donc on a quitté la mosquée. France 2 est arrivée juste derrière nous, et ce sont eux qui se sont fait enlever. En fait, ce métier, vous le faites jusqu'au bout, mais sinon, faut pas le faire. Si on a un moindre doute, il faut rentrer, il faut faire autre chose. On n'y va pas pour l'argent, on y va pour témoigner, quoi. Et puis c'est l'endroit où se trouve la une de l'actualité. C'est la une de l'actualité, donc... vous êtes témoin, vous restez, quoi. Et en plus, c'était passionnant d'essayer de comprendre. Moi, j'ai toujours été étonné par les diplomates qui disent « Je comprends la situation au Liban ». Personne n'a rien compris à cette situation au Liban et personne ne comprendra jamais rien. Donc, juste essayer de comprendre ce qui se passait entre ces factions. En fait, c'était des guerres de rue, hein, des guerres de petits pouvoirs entre quartiers. Hein, c'était ça, en fait. Mais... essayer de comprendre la situation, puis de témoigner, quoi. De témoigner des massacres, de témoigner des exactions, c'est notre boulot. Hein. Donc, j'ai dû quitter Beyrouth sur l'ordre de. À l'époque, il me semble, c'était Alain d'Anvers, ça devenait trop chaud pour les journalistes. Hein. Donc, je pense qu'avec Jean-Pierre Abou, on était les derniers à quitter Beyrouth. Avec regret, quoi. Avec regret, quand j'ai décollé de Beyrouth, là, à l'époque, en 83, l'aéroport était réouvert. Je me suis dit, on va jamais revenir là. J'ai éprouvé une grande tristesse pour les Libanais, qui est un peuple extraordinaire. Les Libanais sont des gens extraordinaires. Une grande tristesse, ouais. J'aimerais bien y retourner voir, un de ces jours.
Vous repartez en Amérique du Sud et là c'est une autre affaire, c'est le narcotrafiquant, etc.
Oui, alors en Amérique du Sud, alors je parle espagnol, je parle espagnol, donc je connais bien l'Amérique latine, donc les journalistes qui vont faire des magazines en Amérique du Sud me demandent parce que j'ai les atouts pour partir avec eux en Amérique du Sud. Il y en avait trois, il y avait Jacques Grignon du Moulin, Michel Honorin et Jean Bertolino. Voilà les trois réalisateurs avec qui je suis parti longtemps en Amérique du Sud, notamment les contrats au Nicaragua, la chasse à Mengele au Paraguay, le trafic de drogue en Colombie, les émeutes du Venezuela. Donc ça c'est les zones sur lesquelles j'ai travaillé pendant tout le temps que je suis passé à TF1, en grande partie en Amérique du Sud. D'où ma connaissance du terrain et de la langue espagnole. Et au bout de après avoir couvert avec Honorin, on avait fait les nazis au Paraguay, au Chili, les nazis qui étaient réfugiés là-bas, enfin qui étaient dont la chasse à Mengele. Et quand TF1 a été privatisé, Bertolino a monté 52 sur la Lune. Qui était un grand magazine, de grands reportages. Non sans mal, il a fallu qu'il aille convaincre Patrick Lelay en personne. Il n'y avait pas de grand magazine à TF1, il n'y avait que juste 7 sur 7, dirigé par Anne Sinclair, qui était déjà un très bon magazine, mais il n'y avait pas de long format. Et pas de long format de prime. Donc Jean a eu cette idée, et il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, écoute Jean, si tu montes ça, je fais partie de ton équipe, bien évidemment. Monter un magazine à l'époque à TF1, c'était quand même un challenge. Et donc il a monté 52 sur la Une. Et on cherchait donc des histoires. On cherchait des histoires sur... Écoute, il me dit, tu connais bien l'Amérique du Sud. Pars en Colombie et descends. Descends en bus ou en taxi, comme tu veux, jusqu'au Chili. Trouve-moi des histoires. Donc une des premières histoires que nous avons faites, c'est les mines d'émeraude en Colombie, qu'on avait appelé la fièvre verte. Voilà, donc ça c'était donc j'ai repéré les mines d'émeraudes. C'était pas très compliqué d'y aller parce que les émeraudes sont tenues par les trafiquants de drogue. C'est très lié en Colombie, le trafic d'émeraudes et le trafic de poudre. Donc il a fallu là aussi montrer patte blanche, se débrouiller quoi, se débrouiller pour avoir les autorisations. Et puis tout le monde est armé dans ces mines, hein, donc il a fallu y aller délicatement. Mais en fait, on y est arrivé. Et on a filmé un des derniers Far West, quoi. C'était incroyable. Il y avait des millions de gens. En fait, ça se passe comme ça. Vous avez les mines qui sont en hauteur sur des espèces de petites montagnes. Donc, ils creusent au sommet de la montagne. Ces mines appartenaient à un des grands trafiquants de drogue qui s'appelait Victor Carranza. Et pour sortir la terre des mines, il la jette sur le flanc de la montagne dans un fleuve. Et incroyable, sur ce fleuve, il y a des milliers de personnes avec des tamis qui filtrent l'eau pour essayer de trouver des pierres. Il y en a qui trouvent, il y en a qui ne trouvent jamais. Donc c'est créé une petite ville autour de ce fleuve où vous avez un coiffeur qui fait dentiste en même temps au milieu de la rue, des salles de billard, des prostituées. C'est, voilà, tout pour faire un film, quoi, un vrai Far West, quoi. Donc voilà, on a passé avec Jean un mois dans les mines d'émeraude. Et ça a été un des premiers 52 sur la Lune, qu'on a appelé la fièvre verte, qui a eu beaucoup de succès, qui s'est vendu dans le monde entier. Et puis Jean m'a renvoyé en Amérique du Sud, il me dit, écoute, trouve-moi des belles histoires, comme ça, c'est fabuleux. Tu les sens, les belles histoires. Donc je suis reparti, mais c'était formidable, parce qu'il n'y avait pas de retour. TF1 vous disait... trouve une histoire, quoi. Il n'y avait pas, tu reviens dans 10 jours, il n'y avait pas distorsion économique. On partait avec un peu de sous, et puis quand on n'avait pas de sous, on nous en envoyait, mais il fallait trouver des histoires. Donc Berthoud et son équipe me faisaient confiance. Ils savaient que j'allais, si je trouvais des trucs, c'était pour eux, et uniquement pour eux, et surtout. Et puis un jour, je suis à l'hôtel à Bogota, et il y avait ces fameux cartels de Medellín, le fameux cartel de Medellín. Et un des hommes du cartel, qui s'appelait Jorge Luis Ochoa, avait été arrêté. Donc il est donc incarcéré à la prison de la Modelo, à Bogota. Et son père, Fabio Ochoa, fait une déclaration. Alors je vois ça, moi, aux 20h de la télé colombienne. Il fait une déclaration, une espèce de Falstaff énorme, avec un grand chapeau blanc, entouré de gardes du corps, avec une ruana blanche, comme ça, et interviewé par les journalistes colombiens. Il proteste contre l'arrestation de son fils, que ce sont les Américains, que l'oligarchie colombienne est complice du gouvernement américain, que mieux vaut une tombe en Colombie qu'une prison aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage incroyable, quoi. Donc je me renseigne, j'avais des contacts avec la presse colombienne, ben on me dit c'est le parrain, quoi. C'est celui qui a créé au début le trafic de drogue. Don Fabio Ochoa, multimillionnaire et surtout spécialité, un grand collectionneur de chevaux. Il adorait les chevaux, notamment les chevaux de Paso colombien. Voilà. Donc on me dit, un peu compliqué à rencontrer, mais tiens, ils sont exubérants, hein, ces gens-là. Tu devrais aller à Medellín. Donc j'appelle Berthaud, il me dit, écoute, c'est formidable, si tu as ça, c'est extraordinaire. Donc je suis parti à Medellín.
Ce son a été enregistré, monté, mixé, réalisé par Jean-Louis Vinet. C'est une production de www.aloeil.info. Vous pouvez retrouver tous nos sons, tous les podcasts sur www.a-l-oeil.info, info au singulier. Là, vous aurez tous nos podcasts. Bonne écoute et à bientôt.